Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans un instant, nous retrouverons nos invités pour parler du Mali. Mais d'abord, nous retrouvons un autre pour décrypter une actualité sur la RDC.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Patrick Mboyo Bakambo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, chercheur en droit public et sciences politiques à l'Université Paris-Saclay. Depuis le début du mois, il y a des manifestations à Beni, dans l'est de la RDC, à l'appel de la société civile pour demander le départ des casques bleus de la MONUSCO, accusés de ne rien faire pour empêcher les massacres de civils. C'est la première fois qu'il y a une telle forte pression sur les forces onusiennes.
Dans le contexte actuel, oui. Dans le contexte actuel, depuis que les manifestations et la grève générale a été déclarée, notamment dans la province du Nord Kivu, à Beni et dans tous les autres territoires, c'est la première fois qu'il y a une manifestation, une remise en cause directe. Mais cette remise en cause n'est pas une première en soi. Je peux même remonter jusqu'en 2003, lorsque, alors étudiant à l'université de Kinshasa, j'étais sorti avec d'autres amis, d'autres collègues étudiants, nous avons mené une marche de près de 20 000 étudiants, rien que pour Kinshasa, mais aussi plusieurs autres à travers le pays. À l'époque, nous protestions déjà contre l'inaction de la MONUC, à l'époque, avant que ça devienne la MONUSCO, contre les attaques des Kounda Batoir et Jules Moutebousi, qui avaient même occupé la ville de Bukavu à l'époque, souvenez-vous. Et c'est quelque chose qui est devenu récurrent, que la MONUSCO, qui était anciennement mission des Nations Unies au Congo MONUC, puisse engorger des milliards de dollars. Nous sommes déjà à plus de 20 milliards de dollars depuis que la MONUSCO a été mise en place. Cette mission a été mise en place en 1999 et il n'y a pas de sécurisation de la population.
Comment expliquez-vous qu'il y ait au fil des ans autant de critiques, mais en même temps pas d'évolution significative au niveau de la sécurité dans cette partie de la RDC?
C'est ça, c'est une très bonne question parce que 18 ans d'un constat d'échec, d'inaction vis-à-vis de la MONUSCO, de cette mission des Nations Unies, et on se demande quel est son rôle en réalité. Cependant, il faut noter que la MONUSCO est dans un territoire qui est tout à fait complexe. Nous sommes dans un pays de 2 345 000 km², presque toute l'Europe occidentale. Et même si on était à 20 000 personnels, on est aujourd'hui à moins de 16 000. Les militaires ne peuvent pas, de la mission des Nations Unies, ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire. Bien sûr, il y a des poches où il y a des insécurités, notamment à Beni, dans les territoires de Butembo, à l'Ituri et ailleurs. Mais la difficulté, c'est aussi que c'est à l'armée congolaise que revient principalement la mission de la sécurisation des territoires. La MONUSCO vient en appui. Or, la MONUSCO, là où elle est présente, c'est là où se commettent le plus souvent des massacres, parce que la population a tendance à aller se réfugier là où il y a des bases de la MONUSCO. Mais imaginez-vous, Madame Niacha, qu'en pleine nuit, on puisse massacrer, égorger des dizaines de personnes et il n'y a personne qui sort de la base de la MONUSCO pour secourir la population qui elle-même était venue auprès de cette base pour avoir un semblant de sécurité. Voilà pourquoi il y a cristallisation des tensions et perte de confiance totalement.
Des responsables de la MONUSCO ont récemment fait leur mea culpa et promis de revoir la stratégie de riposte. Vous y croyez ?
Non, on n'y croit plus en réalité parce que la MONUSCO avait déjà promis la force des réactions rapides. Plusieurs fois, on nous a parlé des forces, des missions conjointes, d'opérations mixtes, même avec des pays étrangers. Ça n'a jamais permis de résoudre le problème et ça fait deux décennies qu'on parle des tueries des ADF Nalu, soi-disant, et d'autres mouvements rebelles et terroristes au Congo. Mais la difficulté maintenant, c'est arriver à renouer la confiance avec la population. La mission de sécurisation de la RDC, de cette partie de l'Est, ne se fera pas sans une part active de la population. Or, à chaque fois que les jeunes gens veulent se constituer en mouvement d'autodéfense, c'est là que le pouvoir intervient pour mener des attaques contre des jeunes gens. C'est là qu'on trouve un peu compliqué. Il faut qu'on arrive à trouver, ça c'est ma proposition, un modus operandi entre la MONUSCO, l'armée congolaise et la population qui est un petit peu victime. Bon, c'est un petit peu compliqué d'admettre que des civils prennent des armes, mais on n'a pas le choix.
Comment analysez-vous la réponse des autorités de Kinshasa, tout en admettant que la réponse face à l'insécurité dans l'Est est un échec? Affirme que des manifestants seraient infiltrés par des combattants de groupes armés.
Ça, c'est complètement anachronique. C'est complètement, je peux dire, cynique. On ne peut pas admettre que les gens qui meurent tous les jours n'aient pas un sentiment légitime de chercher à se défendre. C'est ça le problème avec ce gouvernement. Et ça a été depuis le Kabila, on a toujours eu les mêmes problèmes. À chaque fois que la population a voulu se porter en volontaire pour sécuriser les coins, parce que ces jeunes gens qui prennent des armes ou se constituent en force d'autodéfense, sont exposés en première ligne face aux rebelles. Mais l'armée vient derrière ensuite pour tuer ces jeunes gens en les qualifiant des forces négatives, des mouvements maï-maï, et on n'arrive pas à la solution. C'est la solution. Cette méthode a été appliquée par Kabila, il n'y a jamais eu de paix.
Le président Tshisekedi a déclaré samedi n'avoir pas la marge de manœuvre pour prendre certaines décisions radicales contre l'insécurité dans l'Est de la RDC parce que le nouveau gouvernement n'est pas encore investi.
Sa démarche est très mal engagée dès le départ. La question de l'armée n'est pas une question qui dépend en réalité du gouvernement. C'est une question régalienne. Les opérations de l'armée ne peuvent pas être mises en suspens des questions politiques. C'est le président qui est le chef suprême des armées.
Le président kényan en visite en RDC la semaine dernière a promis d'aider son homologue Tshisekedi à stabiliser le pays. Est-ce que cela peut changer la donne?
Je ne pense pas que ça puisse changer la donne. Le Kenya ne connaît pas le contexte géopolitique du Congo. C'est un pays de l'Afrique de l'Est. Je ne sais pas si le Kenya a déjà eu à travailler avec l'armée, les forces armées zaïroises, ni les forces armées congolaises, encore moins les FRDC. Ils vont se faire massacrer comme les Tchadiens l'ont été dans les années 98-99. C'est ça le problème.
Patrick Mboyo Bakambo, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Auteur, chercheur en droit public et sciences politiques à l'Université Paris-Saclay.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h14 à Paris, merci de nous rejoindre pour cette édition du Grand Rendez-vous. Comment réussir l'organisation du prochain rendez-vous électoral et garantir une fin apaisée de la transition au Mali? Nous en débattons ce soir avec trois invités. D'abord, Baba Dakono, expert en sécurité et gouvernance, conseiller spécial du Premier ministre du Mali. Il est à Bamako. Monsieur Baba Dakono, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Moriba Sissoko, bonsoir. Allô, bonsoir, M. Sissoko. Merci, M. Sissoko, d'être avec nous.
Bonsoir.
De Kati, vous êtes juriste point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme. Et avec nous ici à Paris, Yamoudou Keïta. M. Keïta, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Membre du M5 RFP, l'unité de réflexion et d'action pour le Mali, également l'URDAC Mali, et donc ici à Paris. Je vais commencer d'ailleurs par vous, Monsieur Keïta. À l'annonce du calendrier électoral, il y a un peu plus d'une semaine par le gouvernement de transition, certains partis politiques et une partie aussi de la société civile ont demandé l'organisation des élections de manière inclusive. Qu'est-ce qui a depuis été fait et êtes-vous satisfait de la façon dont travaille depuis la transition sur cette question des élections?
Merci de me poser cette question. Bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à mes co-débatteurs. Au fait, satisfait, je pense que non, on est loin d'être satisfait. Et il n'y a pas que les catégories que vous avez citées qui se plaignent. Il y a même une partie même de la transition qui sont certains sont membres du CNT qui se plaignent. Donc, en gros, la façon dont l'agenda du CNT est mené n'est pas satisfaisant. Et la question de l'inclusivité qui avait été soulignée et par les médiateurs de la CDA aussi, vous vous rappelez bien. Et cette question n'est pas traitée à suffisance. C'est le principal mouvement du changement auquel M5-RFP est encore exclu. Et beaucoup d'autres sont exclus, notamment les partis politiques. Donc cela, on l'a même vu à travers les dernières nominations dans le comité d'orientation stratégique, je pense. Et on voit bien que l'inclusivité n'est pas du tout le souci de cette transition. Donc la satisfaction, elle est loin derrière nous. Et en même temps, la façon dont la transition mène, c'est-à-dire botter en touche les aspirations profondes du peuple et gérer le pays comme nous voyons, je crois que ça fait poser beaucoup de questions.
En un mot, avant qu'on écoute évidemment les autres, Monsieur Keïta, de quoi se plaignent précisément l'opposition et la société civile, mais pas seulement, disiez-vous à l'instant, de même que certains du CNT?
Alors, je commencerai par ceux du CNT, à entendre parler le 4e vice-président, qui pensent même qu'ils ne vont pas s'associer ce calendrier électoral qui a été proposé par, qui a été publié par le gouvernement. Et pour la simple et bonne raison que les missions que la transition avait définies dans la charte de la transition ne sont pas accomplies. Donc, il pense que le travail essentiel qu'il devait faire pour le peuple n'est pas fait. Et pour lui, la question électorale vient en dernier. Voilà. Et ça, c'est déjà de son point de vue. Maintenant, par rapport aux partis politiques, je pense que leur souci d'abord, c'est d'arriver à une élection transparente. Voilà. Ce qui n'avait pas été le cas aux dernières élections de 2018. Qui faisait partie d'ailleurs des problèmes qui ont été soulevés pour faire partir Edi Boubacar Keïta. Alors aujourd'hui, est-ce que les conditions sont réunies pour une élection transparente? Je pense que non, parce que depuis que la transition a été mise en place, moi personnellement, je ne vois pas en termes de tâches accomplies qui va dans le sens, de créer les conditions pour une élection apaisée. L'organe qui va gérer les élections. Je n'en vois pas, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens.
D'accord, donc, on en parlera justement, c'est là l'enjeu de notre débat aujourd'hui. Comment garantir des élections inclusives, consensuelles, pour éviter qu'à la fin de la transition, les choses ne se passent pas dans de bonnes conditions. Docteur Baba Dakono, comment réagissez-vous déjà à ces premières déclarations, ces premiers reproches faits par le membre du M5-RFP, opposition? Docteur Dakono, allez-y.
Je salue. Oui, allô, vous me recevez?
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Oui, donc je vous salue, je salue tous les auditeurs ainsi que les invités qui sont avec nous cet après-midi. Effectivement, le chronogramme, donc le calendrier des élections a été publié il y a quelques semaines par le gouvernement de la transition. Ce qui est important à rappeler, c'est que ce calendrier n'est pas issu d'une volonté du gouvernement d'aller aux élections en cette période. Le calendrier a été fixé en fonction de la charte de la transition. C'est un élément important à rappeler parce que beaucoup aujourd'hui sont en train de s'étonner du fait que la date des élections, notamment présidentielles et législatives, soit fixée. Mais c'est pour respecter les 18 mois fixés au terme de la transition. Donc c'est peut-être... normalement, on ne doit pas être surpris parce que dès le départ et bien avant la mise en place du gouvernement de la transition, il avait été convenu à l'issue des concertations nationales le 10, 11, 12 septembre 2020, que la transition allait durer 18 mois. Donc, c'est bien entendu en toute logique que le gouvernement a fixé le calendrier électoral pour...
Donc, pour vous, le gouvernement tient ses engagements, le respect des 18 mois. Maintenant, sur les autres aspects liés au fait qu'il n'y a pas eu d'inclusivité dans l'arrêt ou l'annonce de ce calendrier électoral, des inquiétudes aussi relatives aux conditions de transparence de cette élection, qu'est-ce que vous répondez?
Trois choses. La première chose, c'est que d'abord, la date fixée des scrutins est un horizon. C'est-à-dire, c'est l'horizon de d'ici 9 mois. Et d'ici 9 mois, il y a bien entendu des choses qui doivent être mises en œuvre par le gouvernement. C'est des choses qui sont prévues dans le programme d'action du gouvernement qui avait été adopté par le CNT. Donc, c'est important de rappeler que c'est un horizon. Il ne s'agit pas d'organiser les élections demain. Il s'agit d'organiser les élections en février, notamment l'élection présidentielle couplée aux législatives. Donc d'ici là, il y a un certain nombre de réformes qui sont prévues. Ça nous amène au deuxième point qui est l'inclusivité. Et je suis étonné d'entendre le représentant du...
Malheureusement, la ligne n'est pas très claire avec vous, docteur Dakono. On vous perd. Reprenez vos propos, s'il vous plaît. Allô?
Oui, je ne sais pas, c'est un problème de réseau. Donc, ce que je disais, c'est que le comité d'orientation stratégique, qui est une instance de discussion, justement, de toutes les questions, y compris celles relatives aux élections, a été mise en place en consultation avec tous les acteurs politiques, y compris le M5-RFP. Il y a des acteurs qui ont voulu répondre à l'invitation, qui ont donné le nom de représentant. Il y a d'autres qui ne l'ont pas fait, y compris certaines composantes du M5-RFP. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul représentant au comité d'orientation stratégique choisi par le Premier ministre.
Merci.
Ces représentants ont été mandatés par les organisations qui ont été consultées. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de partis politiques, on a des organisations de la société civile, on a des organisations religieuses, on a les syndicats, on a les mouvements signataires de l'accord. Donc, le COF, en fait, essaie de traduire un peu toutes les forces vives de la nation. Donc, c'est une instance inclusive et c'est une instance qui va justement discuter de toutes ces réformes. Quand vous voyez Merci. Les notions du comité d'orientation stratégique, il y a la définition du champ des réformes, entre autres.
Merci beaucoup, Monsieur Dakono. Je pense qu'on va essayer de vous rappeler parce que la ligne parfois grésille un peu avec Bamako. Monsieur Sissoko, vous m'entendez, Akati?
Oui, je vous entends parfaitement.
Oui, je propose, monsieur, qu'on ne revienne plus sur cet aspect relatif au calendrier électoral, mais qu'on se concentre sur le débat du jour. L'objectif, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à organiser des élections consensuelles et apaisées pour que la transition se passe aussi bien. Alors, pour vous, monsieur Sissoko, quels sont les préalables, d'après vous, indispensables pour qu'on arrive à cette élection consensuelle?
Oh, ok, merci vous déjà, merci madame, merci les auditeurs et surtout je dis bonsoir à mes co-débatteurs. Et merci aussi à la RFI. Au fait, pour le préalable pour une élection apaisée et transparente, c'est d'abord, moi je pense que le calendrier fait partie. Mais il fallait peut-être mettre en place un comité de gestion des élections d'abord, qui pourra peut-être être l'organe qui va gérer les élections et qui soit assorti en tout cas d'une légitimité parfaite. Donc c'est ce que nous ne voyons pas pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de signe.
Donc pour vous, il faut nécessairement une réforme du code électoral.
Il faut nécessairement ça, parce qu'on ne peut pas aller à une élection apaisée et transparente sans pour autant faire de retouches vraiment à l'existant. L'existant qui a été tout le temps critiqué, il faut quand même essayer d'améliorer un peu l'élection, le code électoral, en mettant en place des organes de gestion des élections proprement dites.
Premier préalable. Ensuite?
Ensuite aussi, il faut l'inclusivité. L'inclusivité de tous les acteurs sur la scène politique. Essayer d'amener les politiques, les techniciens, tout le monde, tout ce qui peut être nécessaire pour la bonne réussite de la chose, les amener autour de la table et faire une concession avec ceci.
Monsieur Sissoko, oui, vous dites qu'il faut une réforme du code électoral, ensuite des élections inclusives, mais avant même d'aller à tout cela, on parle aussi d'un référendum qui doit être organisé avant cette élection. Est-ce que vous pensez qu'on peut objectivement y arriver?
Oui, bon, le référendum, moi je pense que déjà il y avait eu des préalables par rapport à ça. Parce qu'avec d'abord le président Amadou Toumani Touré, le président Amadou Toumani Touré, il en avait tenté. Il avait mis en commission, il avait une commission en place qui avait travaillé déjà sur les documents. Et après, avec le régime qui a suivi, le régime IDK, lui aussi, il en avait mis en place une commission stratégique pour réfléchir un peu à cette réforme. Et je pense aujourd'hui que les documents sont disponibles. Avec ce que les Maliens quand même cherchent, c'est d'aller vraiment vers une réforme. Parce que c'est ça aussi, les textes doivent être améliorés. La constitution que nous avons depuis 1992, vraiment, a montré souvent ses limites par rapport à beaucoup de humains. Donc, il va de soi que s'il y a question d'aller vraiment en avant, il y a des changements. Et je pense aujourd'hui que nous avons encore 5 mois pour faire ce changement-là, ce réforme-là.
Donc, vous pensez qu'on peut maintenir le calendrier électoral tout en faisant la réforme du code électoral, le référendum sur la nouvelle constitution?
Le référendum peut bien être fait parce que déjà, il y a 5 mois. D'abord, il y a la consultation, les étapes sont bien connues. Hein. Il y a les consultations, après les consultations, l'élaboration du projet de constitution. Il y a l'examen par le Conseil des ministres et l'adoption par le CNT, le Conseil national de transition. Je pense qu'en 5 mois, le travail est bien faisable. Mais la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est la taille de la commission d'orientation stratégique qui a été mise en place, qui est au nombre de 50. Et une commission de 50 personnes pour travailler sur des questions scientifiques, moi je pense qu'il y a trop d'embûches.
Merci.
Il y a trop d'embûches, c'est trop, c'est trop pour un travail aussi scientifique comme ça. Quoi.
Merci.
Il y a 50 membres là, c'est déjà trop.
Merci, M. Keïta. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler des préalables et des bases d'une élection consensuelle au Mali. C'est en février 2022.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Les élections du 27 février prochain au Mali seront-elles consensuelles afin de permettre une fin de transition apaisée? Nous en débattons ce soir avec Dr Baba Dakono, expert en sécurité et gouvernance, conseiller spécial du Premier ministre du Mali, l'État Bamako. De même que nous avons Moriba Sissoko, juriste, point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme à Kati. Et ici à Paris, Yamoudou Keïta, membre du MC 5 RFP, coalition de l'opposition. Alors, M. Keïta, est-ce que vous aussi, vous avez des inquiétudes concernant cette inclusivité dont on parle? Et vous avez entendu tout à l'heure M. Sissoko relever la nécessité de procéder à une réforme du code électoral et aussi d'avoir une nouvelle constitution. Pour vous aussi, ce sont des préalables indispensables?
Alors, ce sont des préalables comme d'autres, mais je pense que le premier des préalables qui est plus urgent, c'est d'abord la sécurité et l'intégrité territoriale du Mali. Cela est très important et je pense que sans sécurité, il ne serait déjà pas bien d'organiser les élections comme ça a été fait bien avant, surtout sous Ibrahim Boubacar Keïta. Ça, c'est un des points. Et l'autre point par rapport au code électoral, la révision du code électoral, nous espérons, là je parle en tant que président de l'UDAC Mali, ne le sera pas dans le souci d'appliquer l'accord d'Alger, c'est cela. Et ça interfère avec la question du référendum. Alors, référendum pourquoi? Le seul projet pour modifier la constitution aujourd'hui, c'est l'accord d'Alger, qui est à force de constitution. Or, la majorité du...
Contre lequel, vous êtes opposé?
Oui, nous sommes opposés à cet accord-là. C'est un accord de trahison, ce n'est même pas un accord du peuple malien, il faut le dire. C'est un dictat imposé au Mali à la suite d'une défaillance ou d'une faillite de l'État et de nos autorités. Mais c'est un accord qui n'engage ni le peuple malien, voilà, et encore moins, je vais dire, l'essentiel de nos institutions, parce que c'est un accord qui n'a même pas été soumis à ratification devant l'Assemblée nationale.
Donc, excusez-moi, monsieur Keïta, est-ce que vous savez déjà ce qui est contenu dans le projet de constitution proposé par la transition?
Le projet de constitution proposé, je ne sais pas si la mouture existe.
Voilà, donc c'est pour ça que je me demande pourquoi vous accusez déjà la transition de vouloir imposer à travers cette modification de la constitution les accords d'Alger, alors que, à ma connaissance, mais vous avez sans doute plus d'informations que moi en tant qu'acteur politique, mais pour l'instant, on ne connaît pas encore quels sont les aspects que le gouvernement de transition souhaite modifier dans la constitution.
Non, ce n'est pas une accusation gratuite, c'est leur engagement. Ça y est, le président même de la transition s'est engagé à appliquer l'accord d'Alger. C'est ça qu'il a dit. Et dans l'accord d'Alger, il est dit textuellement de modifier la constitution malienne pour intégrer cet accord. Voilà. Et aujourd'hui, le fait qu'il y a une absence d'autres projets, le seul qui existe, c'est l'accord d'Alger. Donc cela nous fait dire évidemment que s'il y a un référendum, c'est par rapport à cet accord-là. Et en même temps, dans les actions gouvernementales, et l'action qui prime aujourd'hui, c'est la feuille de route définie par le ministre de la Réconciliation, qui était il y a quelques jours devant le CNT pour encore donner un habillage stratégique et fonctionnel à cette feuille de route dans son application, qui consiste le plus souvent à sous-traiter la sécurité du Mali et à laisser le terrain au groupe salafiste. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Par rapport à la sécurité, déjà, on sent que le gouvernement s'éloigne de tout ce qu'on attendait d'eux. Sur le plan de la sécurité, sur le plan de la reconquête de l'intégrité territoriale. La question de l'accord, elle est centrale. Et nous voyons, l'approche du gouvernement n'est pas forcément ce que le peuple malien pense. Donc c'est pour cela, nous pensons que ces préalables-là qui ne sont pas traités méritent d'être mis au cœur des questions qui sont posées pour interroger les Maliens réellement et savoir ce qu'ils veulent. Donc je suis étonné que M. Dakono nous dise que c'est le comité d'orientation stratégique qui va s'occuper de tout ça. Il est déjà tard, moi je pense, je l'avais dit lors d'une émission ici, mais aujourd'hui il est encore trop tard pour faire l'inclusivité par rapport à ce comité, mais qui, à mon avis, la mission n'est pas forcément de traiter ces questions Merci. Essentielles qui tiennent à cœur aux Maliens.
Merci, M. Keïta. Docteur Baba Dakono.
Oui, allô?
Oui, Monsieur Keïta a relevé un certain nombre de choses, dont la sécurité, mais on va y revenir. Je propose que vous réagissiez d'abord à ces inquiétudes relatives au contenu même du projet de révision, du projet de constitution qu'il faut reformer.
Merci beaucoup pour la question. Je comprends ces inquiétudes, mais qui n'ont pas lieu d'être, parce que la question de la réforme constitutionnelle n'a nullement pas d'objectif de faire appliquer l'accord. Et d'ailleurs, il disait tout de suite que c'est écrit dans la Constitution, dans l'accord, qu'il faut réviser la Constitution. Bon, j'ai pas vu cette mention dans l'accord, mais qu'il le soit, la révision de la Constitution est une volonté exprimée par les Maliens en 2019 à l'occasion du dialogue national inclusif, et ils sont revenus sur ça à l'occasion des concertations nationales. Donc, c'est pour matérialiser cette volonté des Maliens d'améliorer le processus démocratique, politique et institutionnel dans le pays. Et d'ailleurs, cette question n'est pas nouvelle, elle est antérieure à la rébellion même de 2012, parce que depuis 2008, le président à l'époque, Amadou Toumani Touré, avait pris l'initiative d'une révision de la Constitution. Avant lui, le président Konaré l'avait fait, pour dire qu'il est important aujourd'hui au Mali de corriger les dysfonctionnements révélés par la pratique institutionnelle.
Monsieur Dakone, excusez-moi, permettez-moi de vous interrompre pour dire que vous reconnaissez quand même qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui sont contre cet accord d'Alger, parce qu'il y en a qui disent que la transition militaire est même en train de, je cite, concocter une constitution taillée à la mesure de l'accord d'Alger.
Non, c'est ce que je dis. Ces inquiétudes n'ont pas lieu d'être parce qu'il n'en est nullement pas cas. Il n'y a pas encore de projet de constitution rédigé.
Que souhaitez-vous modifier? Quels sont les aspects que vous souhaitez modifier dans l'actuelle constitution?
Ce que je m'apprêtais à vous dire, ce qui est prévu, c'est de capitaliser sur les initiatives précédentes, y compris celle de 2011, qui était l'un des processus les plus aboutis en matière de révision constitutionnelle. Mais encore une fois, on ne peut pas parler sans ne pas faire allusion au COS. Ça ne veut pas dire que c'est le COS qui va faire le travail de révision. Le COS va faire le travail
le comité d'orientation stratégique.
Le comité d'orientation stratégique, c'est au sein de ce comité que les gens, parce que ce comité, en notre sens, reflète l'ensemble des forces vives de la nation en termes de représentation, va définir le champ des réformes, va se mettre d'accord sur les réformes qui conviennent. Et c'est à partir de là que le projet, comme je le disais, capitalisant sur les initiatives précédentes, va être élaboré. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en rappelant qu'il est important de corriger les dysfonctionnements révélés par la pratique institutionnelle. Donc il ne s'agit pas d'appliquer l'accord. Mais
pardonnez-moi encore,
Monsieur
Dakono, mais j'ai également lu des inquiétudes de certains opposants maliens et même de la société civile qui disent que la transition fait semblant d'organiser les concertations autour de ce projet de constitution, mais en même temps a déjà façonné, d'après eux, une constitution avec l'aide de la fondation, d'une fondation extérieure pour imposer son projet aux Maliens et aux COS.
Bon, deux choses. Déjà, ça, c'est un procès d'intention.
C'est en l'occurrence la fondation Tony Blair, c'est cela.
Je ne peux pas répondre à un procès d'intention. Maintenant, s'agissant de la fondation Tony Blair, c'est bien que vous me posiez la question parce que j'étais consultant jusqu'à ma nomination auprès du Premier ministre, consultant à l'Institut Tony Blair. Et justement, j'étais l'expert qui était chargé de ces questions de réforme. C'est quand je suis parti que celui qui est là-bas, qui est d'ailleurs un de mes professeurs, a été recruté. Donc, pour vous dire que je connais bien cette affaire-là. Et c'est pas l'Institut Tony Blair qui va rédiger la Constitution. La Constitution, le projet n'est pas encore rédigé. La procédure que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est celle qui prévaut. C'est-à-dire qu'on se mette d'accord au sein du COS sur les grandes orientations constitutionnelles. Et à partir de là, le ministère chargé de la refondation fera le projet de Constitution qui sera discuté au sein du gouvernement, puis au sein du Conseil national de transition et qui sera soumis en dernier ressort à l'arbitrage du Malien à travers le référendum. Voilà la procédure. Donc vraiment, il n'y a aucun projet de mouture qui soit écrite ni par l'Institut Tony Blair, ni par qui que ce soit. À ce stade, non. Les seuls projets qui sont pris en compte par le gouvernement, par le Premier ministre actuellement, ce sont les projets qui avaient été faits en 2017, celui qui avait été fait en 2011 et celui qui avait été fait en 2001.
Merci.
C'est l'ensemble de ces projets qui sera capitalisé pour faire la Constitution tout en tirant les leçons des dernières années de pratique, y compris les événements qu'on a vus dans le pays après 2018.
Monsieur Sissoko, vous avez dit et répété que vous souhaitez, on l'a perdu, Monsieur Sissoko, me semble-t-il. Donc, on va revenir à vous, Monsieur Keïta. Est-ce que ces réponses vous rassurent et qu'il y aura inclusivité et que tous les acteurs maliens vont pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils veulent voir apparaître ou non dans cette nouvelle Constitution ? Avant les élections.
Je ne m'assure pas. Je comprends l'optimisme de mon frère Dakono, mais ce n'est pas rassurant ce qu'ils disent. Au contraire, c'est même inquiétant. Voilà. Moi, je pense que les pistes qu'il vient d'évoquer en termes de réformes institutionnelles, je crois savoir que le secrétaire général du ministère chargé des réformes institutionnelles, bien sûr, avait mis l'accent sur trois axes. La gouvernance, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, alors la gouvernance, la citoyenneté et puis le savoir. Voilà. Et je pense que ces trois axes déjà ne font pas partie des éléments que lui est en train de citer. Mais au-delà de ça, dans la pratique, nous savons très bien que le document qui est imposé au Mali, c'est l'accord d'Alger. L'acharnement de la communauté internationale, notamment de la France, c'est d'appliquer l'accord d'Alger. Et nous voyons, les actions du gouvernement vont dans ce sens. C'est pour cela même d'ailleurs qu'il y a peut-être cette raison d'exclure le M5-RMP. Parce qu'une des revendications du M5, c'était soit de réviser l'accord ou d'avoir un projet alternatif. Donc dans les deux cas, il s'agissait d'une remise en question de ce document.
D'accord, donc vous n'êtes pas confiant, parce qu'on a retrouvé M. Sissoko, à qui on va donner la parole. Vous n'êtes pas confiant?
Non, pas du tout.
Merci. Monsieur Sissoko, vous disiez tout à l'heure que vous souhaitez aussi voir la Constitution être révisée. Qu'est-ce qui doit, d'après vous, être retiré ou quelles sont les principales modifications que vous en attendez?
En fait, il y a beaucoup de points où on doit s'atteler un peu sur le changement. Mais plutôt, ce que dit M. Keïta aussi, je ne m'explique pas non plus, parce que quand il s'agit d'intégrer un peu les éléments de l'accord, ça aussi c'est un préalable. Parce qu'il faut le dire, on est bloqué par rapport à la mise en place de l'accord, parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Alors, si ce n'est pas conforme à la Constitution...
Quels sont ces aspects qui ne sont pas conformes? Est-ce que c'est lié aussi à cet accord d'Alger controversé?
Oui, justement, parce qu'il y a l'insertion des accords au sein dans la Constitution, qui prévoit aujourd'hui. Là, il faut impérativement que les éléments, il y a des éléments dans l'accord qui doivent être intégrés dans la Constitution pour que ça soit praticable. Alors, si cela n'est pas fait, on va rester dans le statu quo. Rien ne va bouger. Tout le temps, on voit la mise en place de l'accord et qu'il y a eu des défaillances par rapport à sa mise en place. Alors, étant donné qu'on est d'accord déjà avec l'accord, parce que ça a été déjà gobé par nos autorités, on est dedans, on est obligé, s'il y a question de réviser l'accord, là, on est d'accord. Mais il faut quand même qu'on avance par rapport à cette question d'accord et de constitution.
Mais justement, à ce sujet, M. Sissoko, si la classe politique ou les acteurs maliens n'arrivent pas déjà à s'entendre sur ce qui doit apparaître ou non dans la nouvelle constitution, comment arriver à le faire, à réviser cette constitution et aller aux élections? Est-ce que finalement le 2022, février n'est pas compromis, ce scrutin n'est pas compromis?
Parce qu'il n'y a pas eu ce débat entre les politiques. Il faut qu'il y ait ce débat rapidement, bien avant, c'est peut-être un préalable déjà même au projet de révision et autres. Il fallait vraiment faire le débat, essayer maintenant de recueillir les avis des uns et des autres et insérer maintenant par rapport au projet. Et ça, c'était un préalable à tous les formes.
Mais vous disiez qu'il y a 5 mois pour faire tout cela et que vous étiez optimiste.
Donc, 5 mois, il ne peut pas y avoir encore le débat sur l'accord. Il peut y avoir quand même le débat avec le travail des postes. Il peut y avoir le débat sur son institutionnel, les questions de quoi insérer, de quoi rejeter. Mais est-ce qu'on peut rentrer dans la profondeur de l'accord aujourd'hui pour essayer de voir ce qu'il faut retenir ou ce qu'il faut rejeter? Ce n'est pas possible, on n'a pas ce temps. Parce que ça nous reste que 5 ans, disons, de la constitution. Donc moi, je pense que déjà, il faut déjà partir avec les acquis que nous avons peut-être avec l'accord, si nous pouvons quand même insérer dans... C'est vrai, c'est critiqué, comme l'a dit M. Keita. Aujourd'hui,
merci.
Ça fait un tout, un débat partout.
Merci
tout le
beaucoup.
Monde, quand vous êtes dans toutes les couches, les gens sont là, on crie.
Désolé, Monsieur Sissoko, la ligne se dégrade malheureusement. Et on va revenir tout à l'heure, on va dire un mot sur la sécurité au Mali et conclure notre débat sur les présidentielles et législatives du 27 février prochain.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'organisation comment réussir l'organisation prochaine des élections au Mali et assurer une passation en douce du pouvoir au civil à l'issue de ce processus. Nous en débattons aujourd'hui avec Yamoudou Keïta, membre du M5-RFP, c'est l'opposition, Moriba Sissoko, juriste point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme à Kati, et Dr Baba Dakono, expert en sécurité, conseiller spécial du Premier ministre du Mali. Monsieur Dakono, vous avez entendu, on le voit, il y a déjà beaucoup de questions et de divisions autour de cette constitution qui va être réformée, de même que le code électoral. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver et pouvoir tenir l'élection le 27 février prochain ?
Il n'y a pas trop le choix, parce que ces questions sont prévues par la feuille de route de la transition. Et comme je le disais, cette feuille de route de la transition a été adoptée en septembre, bien avant la mise en place du gouvernement. Donc c'est un processus dans lequel le gouvernement a été engagé par les Maliens qui se sont retrouvés à l'occasion de ces concertations. Donc ces réformes, il n'y a presque pas le choix. La question de la Constitution, la question de la réforme...
Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de divergences sont trop fortes pour qu'on arrive véritablement à ce consensus qui doit aussi permettre des élections apaisées.
Ben, c'est sûr qu'il n'y aura pas l'unanimité. L'unanimité, ce sera illusoire de penser que tout le monde serait unanime sur ces réformes-là, qui d'ailleurs, il faut le rappeler, d'un point de vue politique, les réformes ont été toujours, pour certains acteurs, un fonds de commerce politique pour essayer de se positionner. Donc, c'est sûr que ça va exister, ça va dévérer. C'est pas nouveau, mais il faut quand même y aller en fonction du temps qui reste, en fonction des moyens qu'il y a. Encore une fois, unanimité, non, peut-être, mais consensus, c'est ce qui est recherché par le gouvernement et c'est ce qui justifie la mise en place du COS et c'est ce qui va justifier toutes les actions prévues par le ministère de la Refondation en termes d'écoute, en termes de discussion, en termes d'assemblée populaire.
Merci. Monsieur Keïta, vous êtes optimiste qu'on surmontera, vous surmonterez toutes ces divergences et pouvoir organiser des élections apaisées ?
Malheureusement, non. Moi, je ne suis pas du tout optimiste. Je pense déjà que les conditions matérielles ne sont pas réunies, d'une part. D'autre part, je crois que la transition ne répond vraiment pas aux véritables aspirations du peuple malien qui veulent des élections transparentes, bien sûr. Mais malheureusement, de cette façon, on risque de se retrouver dans des crises au poste électoral, je vais dire. Parce qu'en organisant des élections de cette façon, où il y a l'impréparation, mais en même temps, il y a beaucoup de mécontentement au sein de la population, il y a beaucoup de doutes, comme moi d'ailleurs, puisque M. Dakono dit que mon inquiétude n'a pas lieu d'être, donc c'est un doute qui n'est pas fondé. Donc moi je pense que dans ces conditions, on va se retrouver avec un président que eux ils auront élu, c'est-à-dire que la transition aura élu, mais qui ne sera peut-être pas forcément le président des Maliens.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire, M. Keïta, que si on n'arrive pas à trouver un consensus sur le code électoral et sur la Constitution, vaut mieux ne pas organiser cette élection à cette date-là?
Alors, c'est à la transition de savoir à quoi jouer. Déjà, ils ont passé 9 mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Pour la simple et bonne raison que les véritables aspirations du peuple ne sont pas prises en compte. La question de l'inclusivité, elle est là, elle reste entière, notamment par rapport à M5-RFP. Maintenant, si la mise en place du COS leur suffit pour dire qu'il y a l'inclusivité, moi j'attends de voir. Mais j'avoue qu'au stade où je suis, l'inclusivité n'est pas à l'ordre du jour, puisque le M5 projette des actions après le ramadan. Donc c'est pour dire que les conditions matérielles ne sont pas réunies.
Merci.
Pour aller à une élection transparente.
Merci
pour
beaucoup.
Aller à un référendum. Et les Maliens ne veulent pas de l'accord d'Alger, je le répète, il faut que le gouvernement tienne compte de cela, contrairement à ce que le président de la Transition a affirmé le jour de sa prestation de serment qu'il va appliquer l'accord d'Alger.
Merci, M. Keïta. Alors, M. Sissoko, on parlait aussi de cette inquiétude au-delà de cette divergence politique, mais il y a aussi des inquiétudes sur la sécurité. Mais le ministre de la Réconciliation nationale était très satisfait du bilan qu'ils ont obtenu au niveau de la sécurité. Notamment, il estime qu'il y a moins d'attaques dans le nord et dans le centre du Mali.
Oui, bon, en fait, d'abord, moi, je pense qu'avec la ligne, j'ai manqué beaucoup de choses. Mais je pense aussi que les questions sécuritaires, ça n'a jamais empêché une élection de se tenir. Hein. Parce que si on se rappelle bien, lors des élections de 2018, ça a été le cas. Il n'y avait pas, l'insécurité n'était pas aussi autant à l'ordre du jour.
Mais on voit aussi que ça a crispé l'atmosphère et puis ça a aussi entraîné des manifestations. Oui.
Et puis même avec les élections législatives passées, effectivement, il n'y avait pas encore, la sécurité n'était pas au top non plus. Mais c'est qu'à cela ne tienne parce que c'est la vie de la nation en dépend de ces élections-là. Parce qu'il faut des autorités légitimes.
Donc vous dites que quel que soit le cas, même s'il n'y a pas de consensus au niveau politique, d'avancée sécuritaire, il faut organiser les élections et respecter la transition, le délai de transition.
Le gouvernement doit s'atteler vraiment à minimiser un peu le danger, mais pas à oublier totalement le danger. On peut quand même minimiser le danger pour faire les élections. Mais on ne peut pas quand même laisser comme ça la transition s'éterniser au pouvoir parce qu'il y a question de légitimité qui est là. Il faut quand même que les dates prévues soient maintenues et que ça soit respecté. Ça, c'est dans le salut de tout le monde. C'est dans le salut de tous les Mali.
Et si on n'arrivait pas finalement à réformer la commission électorale comme le souhaitent les acteurs ou à avoir une nouvelle constitution, pour vous,
Il faut ça impérativement. Il faut ça impérativement de réformer en tout cas la commission électorale au souhait des Maliens.
Non,
ça,
je disais si la classe politique n'y arrivait pas avant l'élection.
Non, ils vont y arriver s'ils sont appelés autour de la table. Ça aussi, c'est une réalité. Il faut falloir le gouvernement qui est en place doit les appeler autour de la table et essayer maintenant de faire une concession par rapport à la constitution de cette commission. Sinon, ils ne vont pas quand même refuser ce que la classe politique va refuser de venir volontairement. Je ne pense pas. S'ils sont invités, ils vont venir. C'est une question de la vie de la nation qui est engagée. Donc, ils sont obligés vraiment d'être dans cette commission.
Monsieur Baba Dakono, voilà, on parlait des préalables. Pour vous, aujourd'hui, comment comptez-vous vous y prendre pour convaincre la classe politique d'obtenir ce consensus indispensable avant l'élection pour une transition apaisée?
Encore une fois, je pense qu'il faut quand même qu'on soit clair dans la distinction entre consensus et unanimité. Le consensus, il est recherché, il est en train d'être entretenu, parce qu'il y a un début de consensus, comme je le disais. Pour revenir aux acteurs comme le M5-RFI, c'est très important aujourd'hui qu'ils soient impliqués dans le processus. Toutes les démarches ont été entreprises au niveau du Premier ministre pour les inviter, pour les consulter, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu les amener autour de la table. Les efforts vont se poursuivre. Mais encore une fois, il est important de préciser que l'unanimité, ce serait une illusion dans
oui, vous l'avez dit, M. Dakono, consensus, pas unanimité. Mais il est aussi vrai que sur le plan politique, c'est difficile, mais sur le plan sécuritaire, ça l'est encore plus.
Oui, sur le plan sécuritaire, je rejoins parfaitement ce que disait, je crois, M. Sako tout à l'heure par rapport au fait que c'est important que ces élections se passent dans une atmosphère sécuritaire assez apaisée. Mais aujourd'hui, l'impératif, parce qu'on a deux situations, on a deux dimensions de cette crise. Il y a la dimension sécuritaire et il y a la dimension politique. Et la dimension politique ne peut être réglée que par ces élections-là. Et il faut se rappeler...
Et vous accusez de vouloir sous-traiter la sécurité et ne pas en faire une priorité. Le gouvernement de transition est accusé de vouloir sous-traiter la sécurité du Mali aux autres.
Quel autre? Bon, ça, c'est vraiment une affirmation pour laquelle je n'ai aucune information parce que je n'ai pas eu connaissance en tant que chercheur sur les questions sécuritaires qui est de groupes d'autodéfense ou de milices qui soient nés pendant cette, entre août et aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de groupe qui soit né, qui soit armé par le gouvernement de la transition. Tous les groupes qui sont là aujourd'hui actifs, ce sont des groupes qui sont nés il y a quelques années et qui opèrent dans la zone. Aujourd'hui, la dynamique, c'est de discuter avec l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui ont pris des armes pour trouver une solution. C'est une des dimensions de la politique de réconciliation.
D'accord. Mais vous êtes confiant qu'il y aura une élection apaisée en février prochain?
C'est un objectif. C'est l'objectif ultime recherché par la transition, qui est ces élections crédibles, transparentes et inclusives.
Merci beaucoup, Dr Baba Dakono, expert en sécurité et gouvernance, conseiller spécial du Premier ministre du Mali. Vous étiez en ligne de Bamako et en ligne de Kati. Moriba Sissoko, juriste point focal au Centre d'assistance pour la promotion des droits de l'homme. Et Yamoudou Keita, membre du M5 RFP, opposition à Paris. Bonsoir, merci de nous avoir écoutés.